avec, Christelle a vendu la mèche, avec une autre histoire de lépreux. Voilà. En fait, quand on a réfléchi tous les deux à ce qu'on allait partager pendant ce moment de culte, voilà, les idées se sont enchaînées de cette manière-là. C'est Christelle qui a tiré la première. L'idée, c'est trois petits mots. Après, le reste s'est enchaîné. Et je vous propose effectivement de lire dans le deuxième livre des Rois. Alors, le texte est assez long, donc on ne va pas le projeter, mais tout le monde va écouter avec toutes ses oreilles. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'un bon nombre d'entre vous connaissent l'histoire, donc ils vont pouvoir s'y retrouver. Naaman, qui connaît Naaman? Bon, il y en a qui sont timides, qui n'osent pas lever le doigt, mais je pense qu'il y en a plus que les 5 ou 6 que j'ai vus. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son seigneur, d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Donc un général qui a gagné la bataille et qui fait que la Syrie a gagné sur Israël. Donc il est surtout admiré en Syrie quand même, on peut imaginer. Voilà, à l'époque. C'est la Syrie de l'époque, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Syrie d'aujourd'hui. Mais, dit le texte, cet homme important était lépreux. Et je rejoins ce que disait Christelle, la lèpre, ça recouvrait beaucoup de ces maladies qui faisaient que la vie publique des gens était complètement empêchée parce qu'on ne savait pas si c'était contagieux, pas contagieux, etc. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Ceux qui ont connu les bancs de l'école du dimanche se rappellent ces petites images, la petite servante de Naaman qu'on a racontée. Et cette servante dit à sa maîtresse, « Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes, « La jeune fille du pays d'Israël m'a dit ça, etc. » Alors le roi de Syrie dit, « Va à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Ce que fit Naaman, il partit, en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or. Alors, je crois que ça veut dire, c'est 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or ou un truc comme ça. Enfin, c'est à peu près ce que ça veut dire. Enfin, des cadeaux tout à fait importants et 10 vêtements de rechange. Donc, ce n'est pas des vêtements pour se changer lui. C'était des vêtements d'apparat qu'il allait offrir. On offrait des tissus. Le tissu, à l'époque, c'était quelque chose qui servait à faire des cadeaux. Donc, Naaman apporta au roi d'Israël la lettre. Où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, qu'est-ce qu'il fait le roi d'Israël? Il fait 2-3 passes magiques et hop, non. Le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, mais suis-je Dieu, moi, pour faire mourir et pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez, voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Mais Élisée, l'homme de Dieu, le prophète dont avait parlé la petite servante, entendit parler que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Déchirer ses vêtements, c'était le signe d'une grande colère. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque, pour montrer qu'on était vraiment furax. On déchirait ses vêtements, après on se mettait dans une attitude de désespoir total. Donc quand Élisée a appris cela, il lui dit, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne vers moi. Et il reconnaîtra Naaman, qu'il y a un prophète en Israël. Alors Naaman vint avec ses chevaux, son char, s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné, je pense que le mot est faible. Il s'en alla en disant, alors quoi? Moi, je me disais, il sortira vers moi, il viendra, il évoquera le nom de son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade, et il débarrassera le lépreux de sa lèpre. Après tout, les fleuves de Damas, la Manna, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, fais donc ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Et donc finalement, Naaman descendit, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Alors il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée dit « L'Éternel est vivant, je n'accepterai pas. » Et Naaman dit « Puisque c'est non, permets que je prenne de la terre la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon seigneur le roi entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, j'y suis avec lui, il s'appuie sur ma main et je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Et Élisée lui dit « Va en paix. » Et il le quitta. Et je vous laisserai lire la suite de l'histoire. Il y a des rebondissements à cette histoire, mais c'est juste cette partie-là que je voulais dire. Encore une histoire de lépreux. Hein. Et on va retrouver, alors bon, c'est parce qu'on a conçu le culte comme ça, on va retrouver les 3 mots qui sont, je crois, toujours inscrits derrière moi. Dans nos relations avec Dieu, dans nos relations avec les autres, etc. De quelle manière nous avançons-nous ? Donc le contexte, hein, j'en ai un peu parlé, il y a eu la guerre, il y a un héros qui est reconnu mais qui est fragilisé, il est obligé de se cacher parce qu'il a la lèpre. Et comme toujours, comme beaucoup de ces textes qu'on trouve dans la parole de Dieu, ça nous raconte quelque chose sur notre vie, sur ce que nous sommes. Nos vies ne sont pas linéaires et même si on est tout beau, tout propre à l'extérieur, on a tous dans le cœur des choses un peu compliquées à gérer et des choses comme ça. Voilà, je pense que... on est tous un peu lépreux, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, on a souvent des vies qui portent aussi des souffrances, et ça fait partie de notre nature humaine. Mais comment allons-nous réagir ? Est-ce que comme Naaman, il va arriver un moment où on finit par demander de l'aide ? C'est intéressant de voir, alors le récit est résumé, mais imaginez la bataille intérieure pour ce chef de guerre... le général en chef des armées du roi de Syrie, un truc comme ça, puisqu'apparemment il a l'air très très proche, obligé de se casser, et obligé d'admettre qu'une petite voix d'une petite servante, qui devait quand même être traitée comme une servante, hein, elle avait été prise lors d'une razzia qui avait été faite dans le pays, quoi, elle n'était pas venue de son plein gré, loin de là, un petit rien va suffire à faire basculer sa vie. Et la première leçon, la première idée que ça me fait venir, c'est est-ce que nous savons déceler les signes que le Seigneur nous envoie sur notre vie ? Nous ne sommes pas seuls, il est présent avec nous, mais on est parfois un peu envahi par notre vie, par le rythme dans lequel nous agissons, et tout cela peut nous masquer des signes que le Seigneur nous envoie, même s'ils sont petits. Je ne sais pas comment elle a fait cette servante pour que finalement vienne aux oreilles, elle ne devait pas voir le général en chef tous les jours, enfin je ne sais pas, on imagine un peu comment ça se passait, quoi. Elle devait être, c'est Cendrillon, quoi. Peut-être dans les cuisines, enfin, je sais, là je romance un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était sûrement pas, elle ne mangeait pas à la table du chef tous les jours. Donc comment s'est-il, on ne sait pas, mais il y a eu quelque part des signes qui ont fini par monter jusqu'à lui, et qu'il a fini par capter et entendre ce qui s'était passé. Vous savez, Jésus était confronté à des tas de gens qui n'arrivaient pas à croire en lui, qui ne voulaient pas, qui n'arrivaient pas, enfin, on dit ça comme on le veut. Et plusieurs fois, au moins 2 fois dans l'évangile de Matthieu, on a une rencontre où là c'est les pharisiens au chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens l'abordent pour l'éprouver, pour lui demander de faire venir un signe venant du ciel. Et Jésus leur dit, mais le soir vous dites il fera beau parce que le ciel est rouge, le matin il y aura de l'orage parce que le ciel est rouge sombre. Alors vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Puis il continue en disant, cette génération mauvaise, il ne lui sera pas donné d'autres signes que le signe de Jonas. Et là, il fait référence à ce qui va lui arriver après. Mais nous aussi, ouvrons les yeux, apprenons à ouvrir. Ouvre les yeux de mon cœur, on l'a chanté tout à l'heure, pour comprendre, pour entendre quand Dieu veut nous parler. Même si c'est au travers d'une personne aussi insignifiante que la petite servante qui était quelque part dans les souterrains ou dans les sous-sols du palais ou au fin fond d'un endroit où Naaman n'allait jamais. Et finalement, Naaman finit par être dans l'attitude du « s'il te plaît ». S'il te plaît, tu me donnes l'adresse de ton guérisseur. Tu me donnes son 06, ce qu'on dirait aujourd'hui. C'est ça qu'il a fini par dire. C'est quoi ce prophète ? Donne-moi ses coordonnées que je puisse y aller. Avec le roi aussi. Je te demande l'autorisation de quitter le pays pour aller en Israël, pour aller rencontrer ce personnage. Puis à Élisée. Voilà. Finalement, Naaman accepte d'être dans cette attitude où il va demander « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, aidez-moi. Pourtant, tout a bien failli rater. Parce qu'évidemment, vous avez bien entendu, la façon dont Naaman envisageait la suite, elle correspondait à ce qu'il était. Un grand du royaume, etc. Donc il arrive, boum boum, trompette, tout ça, on déroule le tapis rouge, enfin comme on voit à la télé quand les grands de ce monde se rencontrent. Il n'était pas forcément prêt. Il avait dans le besoin, donc il était prêt à demander s'il te plaît, mais pas forcément prêt pour ça, à s'abaisser à ce point-là. Il est lépreux, mais peut-être pas tout à fait dans la situation des 10 lépreux de l'Évangile. Il n'était pas tout à fait au banc de la société, pas forcément au fond du trou. Et puis bon, il avait fait ce qu'il fallait, hein, 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, des vêtements magnifiques, enfin voilà, il avait quand même préparé le terrain. Et quand il pense rencontrer Élisée lui-même, quoi, on va se parler d'égal à égal, la colère, humiliation, ça ne devrait pas se passer comme ça. Il mérite mieux. Et là, c'est une question intéressante. Quels sont nos mérites ? Qu'est-ce que nous méritons quand nous approchons de Dieu ? Naaman était persuadé qu'il méritait mieux que ça, quand même. Et en fait, la leçon qu'il va apprendre, c'est que ce qui était important, c'est qu'il accepte ce que Dieu allait lui donner par l'intermédiaire de son prophète, du prophète Élisée. Et pour nous, quels sont nos mérites quand nous approchons de Dieu ? Hein, parfois on dit, s'il te plaît Seigneur, donne-moi ça, parce que tu vois, je suis quand même je suis là tous les dimanches au culte, quoi, quand même. Hein, donc, j'ai des mérites. Non, nous n'avons pas de mérites. La seule chose dont nous puissions nous prévaloir, c'est d'être des pécheurs graciés, rachetés, relevés, mais sûrement pas, de nos mérites personnels. Vous connaissez cet épisode dans l'évangile toujours de Matthieu, où Jésus est assis devant l'endroit où les gens faisaient leurs offrandes. Matthieu au chapitre 12. Non, c'est dans Marc. Si c'est chapitre 12, ça sera dans Marc. Voilà, Jésus regardait comment les gens mettaient de l'argent dans le tronc. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces. Un quart de sou. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Tous, ils ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle possédait pour vivre. Elle n'avait pas de mérite, elle le savait. Naaman a dû apprendre que ses mérites, qui étaient sans doute grands, n'allaient pas lui servir. En tout cas, c'est pas ça qui allait le guérir de sa lèpre. Alors, il est devant un choix. Il est déçu, manifestement. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas dans ses codes. Est-ce qu'il va tout plaquer, rentrer dans son pays ? C'est presque ce qu'il est en train de faire. Hein. Il plie bagage. Puisque c'est ça, je rentre. Puis le roi, qui soupçonnait qu'il lui cherchait querelle, il dit ouais, « qu'est-ce que c'est que ce subterfuge ?» Et c'est là qu'on retrouve ces petites interventions discrètes, ces signes qui par-ci, par-là, viennent dans sa vie. Il y avait la petite servante, on l'a dit. C'est par son témoignage que tout a commencé. C'est elle qui a dit quelque chose. Combien de témoins sont intervenus dans nos vies pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui ? Combien de jalons, si on se retourne, sont là, plantés ? Pour nous dire, tiens oui, ce jour-là j'ai rencontré telle personne, là j'ai vécu ça avec le Seigneur, là il s'est passé telle chose, et tout ça ce sont des petits témoins, des petits signes qu'il est bon de se rappeler, pour se dire que même si aujourd'hui je suis dans une période d'interrogation, Rappelons-nous que le Seigneur nous a montré tant de fois qu'il nous aime, qu'il nous accompagne, qu'il est à nos côtés à chaque instant. Le livre des Hébreux dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, si vous lisez dans le livre des Hébreux, qui est un peu compliqué, mais il y a le chapitre 11 qui est la galerie des héros de la foi, qui rappelle tout un tas de gens qui ont vécu des choses extraordinaires, et le chapitre d'après qui commence, puisque nous sommes entourés de tous ces gens-là, alors en avant, parce que nous aussi le Seigneur nous accompagne. Il n'y a pas très longtemps, un peu, d'ailleurs par hasard, on n'a pas le droit de dire ça ici, j'ai eu un coup de téléphone avec une personne qui s'appelle Monique Kayoujoulou. Alors pour ceux qui connaissent, c'était la femme de Dimitri Kayoujoulou, qui a créé le centre de vacances de Saint-Lunaire. Et il se trouve que je suis très vieux, et que comme je suis très vieux, j'ai eu le privilège de faire un des premiers camps de Pâques qui s'était fait là-bas. Et bon, il se trouve que voilà, j'étais en contact. Son mari est décédé maintenant. Mais voilà, et elle a pris le temps de me passer un coup de téléphone et on s'est parlé pendant 5 minutes. Donc la dernière fois que j'ai vu Monique Kayoujoulou, ça doit remonter à, je vais même pas oser vous le dire, entre 40 et 50 ans sans doute, quelque chose comme ça, que je l'ai vue physiquement, je veux dire. Et elle m'a téléphoné et on s'est rappelé un certain nombre de choses qui m'ont marqué, qui l'ont peut-être marqué elle aussi, mais qui m'ont marqué et qui ont marqué ma vie. Un des témoins, il y en a eu tant d'autres. Ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Et puis, dans le choix que Naaman va faire, il y a le prophète Élisée quand même. Il a évité que la situation s'envenime. Vous avez vu, quand le roi déchire ses vêtements, ça a failli redéclencher la bagarre. Et Élisée dit, oh, du calme, qui vienne me voir et on va arranger les choses là. Il a été en quelque sorte artisan de paix, on peut dire d'une certaine manière. Il a en tout cas fait en sorte que ce ne soit pas objet de querelle qui, vu la situation, aurait pu relancer la guerre. Et puis ces serviteurs de Naaman, vous avez vu, j'ai un peu insisté en lisant le texte. Moi, je les aime bien, ces gens-là. Ils sont pleins de BSP. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le BSP. C'est le bon sens paysan. Voilà, tout simplement. C'est un de mes patrons qui disait ça. Pour résoudre des problèmes compliqués, il dit, vous n'avez pas de BSP, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà. Le bon sens paysan, c'est dire, attends, il t'aurait demandé un truc, de grimper une montagne, de faire un truc hyper compliqué, tu l'aurais fait, et là, on te demande de faire un truc, on ne peut pas plus simple, et puis tu te mets en colère et tu ne veux pas. Et voilà ce qui va amener finalement Naaman à reprendre la raison, à accepter. La suite de l'histoire est très courte, il est là, il se plonge cette fois, etc., il sort, il est guéri. Donc voilà, on peut imaginer que ça a été un peu plus compliqué que ça. Mais voyez, il y a plein de choses qui sont dressées pour faire renoncer Naaman. Et finalement, grâce à tous ces petits gestes ajoutés les uns aux autres, la servante, Élisée, ses serviteurs, etc., voilà que finalement, on est allé au bout de l'histoire. Et la demande de « s'il te plaît » de Naaman a finalement reçu une réponse. Ça prend un peu de temps, des fois. Ça peut prendre un peu de temps pour nous aussi, parfois, quand nous demandons quelque chose au Seigneur et qu'on a l'impression que ça ne vient pas tout de suite. Parce qu'il faut aussi qu'on élimine un certain nombre d'obstacles pour finalement être en disposition pour le recevoir. Et les obstacles peuvent être externes, facile à les pointer, les accuser, mais ils peuvent être aussi en nous, les obstacles dans nos propres têtes. Et alors finalement, Naaman est guéri, et j'aime bien comparer le texte que nous lisait Christelle tout à l'heure et celui qu'on a dans les Rois. Donc, si on lit, quand Naaman revient, il retourna vers l'homme de Dieu et il dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël ». Et dans le chapitre 17 des lépreux, celui qui vient, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix, tomba sur sa face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. Quelques siècles d'écart, c'est un peu la même chose, d'une certaine manière. Et ils sont tous les deux dans cette attitude de merci. C'est intéressant aussi de remarquer que dans les deux cas, ce sont deux personnes qui normalement n'auraient pas vraiment eu droit à tout ça. Le lépreux, le texte dit comme ça, tout petit bout de phrase, vous l'avez remarqué, c'était un Samaritain, comme ça en passant. Voilà. Alors pour nous, ça ne dit pas grand-chose, mais à l'époque, c'était quand même pas vraiment une qualité recommandable. Ce n'est pas vraiment des ennemis, les Samaritains, enfin, c'est des gens peu fréquentables, c'est des hérétiques. Hein, c'est, voilà, bon, donc, surtout, on ne pouvait pas les fréquenter. Et là, Naaman, c'est quand même un général syrien qui vient dans le pays conquis se faire guérir par le prophète du pays, prophète d'un dieu auquel il ne croit pas, quoi. Enfin, dire, vous voyez ça, quand même. Il n'y avait aucune raison. Voilà, ces catégories n'entrent pas en compte pour Dieu. Jésus disait, hein, je ne suis pas venu guérir les bien portants, mais guérir les malades. Et nous-mêmes, quand nous nous approchons du Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons des qualités à faire valoir, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de raison. Seule la grâce de Dieu vient nous chercher. Mais ce qui relie ces deux hommes, comme on peut trouver d'autres exemples dans la Bible, bien sûr, c'est qu'après avoir été guéris, ils ont dit merci. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose que nous devons retenir. Peut-être si dans les trois mots, il y a l'un qui est important, c'est merci, c'est être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur nous donne de vivre. Quand vous avez des difficultés, quand c'est compliqué, quand on ne voit pas trop la lumière, eh ben, forçons-nous à chanter le chant là, béni soit ton nom qu'on vient de chanter. Ce n'est pas un mantra, mais c'est juste parce que ça nous rappelle que malgré les difficultés de la vie, le Seigneur est là et qu'il veut lui nous donner, nous répondre. Et puis on va terminer avec la dernière partie du texte que j'ai lu et que je trouve intéressante. Vous avez vu que Naaman veut donner ses cadeaux à Élisée, Élisée ne veut pas. Bon, bref, il y a cette discussion là finalement. Les dernières paroles que l'on voit de Naaman avec Élisée, que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Donc il me pardonne à moi, Naaman, ceci. Quand le roi entre dans le temple pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je vais me prosterner aussi dans le temple de Rimmon. Naaman sait qu'il va retourner dans son pays, il va replonger dans la vraie vie. Après dimanche, il y a lundi. On va revivre la vraie vie tous les uns et les autres. Et on n'aura pas peut-être cette ambiance protectrice que l'on peut ressentir quand on est tous ensemble au culte, hein, par exemple. Quelle que soit la qualité des musiciens, ou de je ne sais pas quoi, du prédicateur, peu importe. Après, c'est la vraie vie qui va recommencer. Et dans sa vraie vie, il a ses obligations professionnelles. Et dans ses obligations professionnelles, bah, entre autres, il doit faire un certain nombre de cérémonies avec le roi. Et avec le roi, il va rentrer donc, les cérémonies, il rentre dans le temple de ce fameux dieu Rimmon, je ne sais pas ce que c'était. Et donc, il va être obligé de faire de se prosterner comme il se doit. Mais, hein, donc je serai obligé de me prosterner dans le temple de Rimmon, alors que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Seigneur, quand je vais retourner dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que je vais être à 100% tous les jours, tout le temps. Enfin, moi, j'en suis pas sûr, en tout cas, vous, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que je vais être à 100% tout le temps. Il y a sûrement des moments où je ferai comme tout le monde, je passerai à côté, voilà, où j'éviterai, où je ne prendrai pas une position très claire. Hein, Non, je vais vivre tout simplement comme les gens qui sont autour de moi, comme les gens avec lesquels je suis. Et peut-être qu'il y aura des actes que je ferai qui ne seront pas strictement conformes à ce qu'il aurait fallu ou ce qu'on dirait le dimanche entre 10h et midi. Mais Seigneur, pardonne-moi par anticipation. Je trouve que c'est très beau cette façon-là. Et le pardon, il est là aussi. Il est pour ce qu'on a fait avant, mais il est aussi par anticipation. Seigneur, je sais que je ne vais pas être parfait, mais je sais que tu vas me pardonner parce que j'ai le désir de te suivre et d'être le plus près de toi possible. Alors, il va y avoir ces petits bémols là, voilà. Et que lui répond le prophète Élisée lui dit, va en paix. Tu es pardonné, puisque c'est quelque chose qui est fait en toute lumière et avec en reconnaissance. Donc j'aime bien cette fin de l'histoire, parce que pas tout à fait la fin. Hein. Vous verrez après, ça se corse, ça devient un peu compliqué, mais pas pour Élisée. Enfin bref, non, vous lirez la suite. Je ne vais pas vous raconter, sinon on fait une prédication. Et vous aurez faim après, d'accord. Mais je pense que, voilà, c'était juste pour dire que, quelle que soit notre circonstance, quel que soit un peu ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense, etc., si nous sommes en capacité, parce que nous avons entendu un certain nombre de signaux, parce que nous avons vu que le Seigneur veut nous parler, parce que nous avons compris qu'il a des choses à nous dire aujourd'hui, si nous sommes en mesure de lui dire « S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à marcher, aide-moi à prendre cette décision, aide-moi à me relever, aide-moi à abandonner cette culpabilité qui me bouffe, aide-moi... » Enfin, voilà, après, chacun a des besoins qui lui sont personnels, qui lui sont propres. Soyons confiants que le Seigneur répondra, non pas à cause de nos mérites, non pas parce qu'on le vaudrait, parce qu'on est le grand roi et qu'on a des cadeaux pleins à lui offrir, c'est simplement par grâce, parce que lui-même veut notre bien. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, le dit majestueusement, tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement rachetés par le sang de Jésus-Christ. Que cela puisse être vraiment aussi notre sentiment. S'il te plaît, merci, pardon, parce que le pardon, nous en aurons toujours besoin, tous les jours. Mais le Seigneur répond, et il entend ces trois petits mots que nous pouvons lui adresser, et à nous aussi, comme Élisée l'a fait à Naaman. Il veut nous dire aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour la semaine qui vient, et c'est ce que je vous souhaite au nom du Seigneur, va en paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ta parole nous parle tous les jours, même avec des histoires que nous connaissons depuis si longtemps, parce que tu es à nos côtés. Et parce que même si parfois dans nos vies nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, que nous puissions vraiment nous le rappeler, toutes ces fois où tu es intervenu, où tu nous accompagnes. Te prions pour ceux de nos frères et sœurs qui ont des soucis en ce moment, des difficultés, des inquiétudes, que tu puisses vraiment les accompagner, leur faire toucher du doigt cette grâce que tu veux répandre sur chacun. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Amen.